Alors, je ne vous ai pas préparé un message de Noël, mais je voulais poursuivre sur le thème de la gouvernance. Et donc, on avait parlé deux fois de la gouvernance personnelle et maintenant de la gouvernance familiale. Et donc, dans ce sens-là, ça tombe un peu bien à Noël parce que la famille céleste a décidé de venir à notre rencontre. Et en fait, la famille céleste, c'est notre exemple en termes de comment fonctionne une famille. Alors, si c'est la gouvernance familiale, peut-être vous dites « Ah, mais moi, je suis encore célibataire, ça ne me concerne pas. » En fait, c'est quelque chose qui fonctionne au niveau de la famille, parce que Dieu a cette progression pour que sa vision vienne sur la terre. Il appelle d'abord un homme, ensuite, il appelle la famille et ensuite le peuple, etc. Donc, il y a cette progression et que nous sommes invités aussi à respecter si nous voulons être dans le cœur de Dieu. Et donc, cette notion de famille s'applique dès qu'on est dans un groupe, dès qu'on est dans une entreprise, dès qu'on est dans une équipe de décideurs, dès qu'on est dans une organisation. Ces principes de fonctionnement de la famille peuvent s'appliquer, donc même si vous n'êtes pas marié, ça peut quand même encore vous parler ce matin. Donc on avait parlé de la gouvernance de soi, et on avait parlé aussi de problèmes qu'on peut avoir et qu'on doit résoudre. Et je crois que Dieu, il nous donne des problèmes pour que nous puissions trouver des solutions. Parce que quand nous trouvons des solutions, nous pouvons les communiquer aux autres. Et notre présence sur la terre, c'est pas juste « Seigneur, viens en aide à ces gens-là ». Non, le Seigneur, il veut que nous trouvions les solutions pour les proposer autour de nous. Parce que les gens sont comme nous, ce sont des humains. Et parfois, on oublie un peu, nous, que quand on est chrétien, on est comme les autres et qu'on a les mêmes problèmes et qu'on peut les aider en ayant les solutions à ces problèmes. Et on avait parlé de quelques exemples de problèmes. Alors quand je dis qu'on a des problèmes, c'est pas tu es mal barré, tu as un problème. C'est comme dans l'éducation, quand on a fait des mathématiques, problème. Donc vous avez une baignoire, et puis etc. Donc on doit trouver la solution ou le résultat. C'est dans cet esprit-là que je parle de problème. C'est pas t'es grave, toi. Donc, vous comprenez bien le fonctionnement. Et nous, j'avais donné aussi une phrase importante que j'aime bien répéter, c'est que la pensée justifie ce que le cœur a choisi. Et nous avons choisi de croire en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et donc, tout ce qu'il dit, parce que nous avons choisi de le croire, ben nous allons écouter ce qu'il dit, nous allons le mettre en pratique. Alors, je ne sais pas si vous avez identifié des problèmes depuis la dernière fois et que vous avez pu trouver des solutions. Bon, je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais c'est bien aussi de parfois pouvoir mettre en pratique les choses. Moi, j'ai identifié quelques problèmes, mais je peux vous en parler après dans le cadre familial. Enfin, entre nous, on en parlera, mais... Pour faire cette transition entre gouvernance personnelle et gouvernance familiale, j'aimerais lire un texte qui va très bien pour ça, dans Philippiens 2. Et j'ai commencé au verset 4... Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc ça, c'est déjà une phrase très, très importante. Identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors j'ai juste envie de prier après ce texte et de dire, Saint-Esprit, je te demande de m'aider à articuler ta pensée ce matin autour de ce message. Et nous voulons ensemble plier le genou devant toi, Seigneur, non pas seulement physiquement, mais dans notre attitude intérieure et être à ton écoute. Amen. Alors la deuxième étape de la gouvernance, c'est donc jusqu'à présent, gouvernance de soi, ok, c'est bon, j'assure. Et quand on se marie, en fait, on se rend compte que c'est une évaluation un peu réaliste de notre gouvernance de soi. Jusque-là, on croyait que c'était notre maman qui était pénible, à toujours vouloir qu'on range les affaires et tout. Mais là, on se trouve avec une femme qui veut aussi qu'on range, mais... Alors on peut se dire, les femmes sont pénibles, quoi. J'ai dit qu'on peut dire. Attendez. Ou alors on peut se dire, peut-être que ma gouvernance personnelle n'était pas encore assez au point. Et d'une manière générale, quand on vit à plusieurs, c'est d'une grande sagesse d'être capable de se remettre en question, plutôt que de penser juste que les autres sont pénibles. Et ça nous aide à aller plus loin, et en même temps, ça nous aide à être comme Jésus. Donc c'est un moment important quand on se marie, parce que là, notre gouvernance est un peu mise à l'épreuve. Mais ce que j'aimerais vraiment dire ce matin par rapport à la gouvernance familiale, c'est que nous devons nous rendre compte que de se marier, alors ça s'adresse à ceux qui ont le désir de se marier, ceux qui sont mariés, c'est que le couple, c'est l'équipe numéro un. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas juste que quand tu rentres le soir du boulot, t'as quelqu'un qui t'attend à la maison. C'est vraiment une équipe dans le cœur de Dieu, l'équipe numéro un. Et cela veut dire que on doit marcher en transparence. Alors je crois que je vous l'ai déjà une fois dit, mais j'ai appris, ou j'ai pris la décision il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait quelques années, de ne rien cacher à mon épouse. Alors il n'y a pas des choses graves à cacher, mais simplement de vivre dans la transparence, de dire les choses, de dire où je vais, et je sais, parfois, c'est plus simple de ne rien dire pour pas que ça énerve. Donc, je sais que... Hein ? Non, je ne vais pas au bistrot. Non, mais, par exemple, quand il y a des choses à faire à la maison, et que c'est plus simple d'aller aider un pote quelque part, et puis... Alors si vous ne dites pas que vous allez aider quelqu'un, ça passe mieux que si vous le dites. Par rapport à ce qu'il y a à faire à la maison, vous comprenez un peu. Entre gars, on se comprend. Hein, non ? Non, mais dans le sens de ne pas cacher des choses. Et dans l'actualité de notre pays, quand on applique des principes, si on applique des principes un peu comme un papier calque sur la situation, on pourrait régler, on va dire 90% des problèmes, on pourrait les régler, juste en se comportant comme la Bible nous demande de se comporter. Après, moi, je ne veux pas juger la vie des gens, mais, par exemple, combien de problèmes financiers découlent parce que le mari a acheté des choses sans en parler avec sa femme ? Alors, je ne dis pas que quand j'achète une baguette, je dis « chérie, tu es d'accord hein. ». Non, mais parfois, il y a des gens qui achètent des choses chères alors que le couple n'a pas beaucoup de moyens. Parce que Il n'y a pas cette consultation, cette transparence où l'un peut dire à l'autre, ouais, mais attends, c'est peut-être pas le moment où, ouais, mais je suis le droit d'eux quand même. Et puis, donc toutes ces situations où on ne marche pas dans la transparence. Après, ça peut être sur d'autres domaines, par rapport aux investissements, ça peut être aussi par rapport au programme, ça peut être, ah, je t'ai pas prévenu, pourtant je croyais que je t'avais prévenu. Enfin, puis après, on est engagé, quoi. Donc prendre les décisions ensemble, on est une équipe et cette équipe doit passer avant tout. Alors par exemple, les parents prennent des décisions en toute unité et puis ils en font part aux enfants. Et ce n'est pas les enfants qui décident, mais ils peuvent donner leur avis et peut-être que les parents peuvent changer d'avis aussi. Il y a cette histoire d'un agriculteur qui s'appelle Werner Lehmann, c'est pas moi, c'est un autre, qui m'a raconté que Dieu l'appelait au ministère à plein temps, c'est-à-dire qu'il devienne pasteur. Et il était agriculteur, il ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. Et ses enfants étaient petits, alors ils ont décidé avec sa femme de vendre la ferme pour s'engager à plein temps pour le service. Et ils en ont parlé aux enfants, et ils ont vu que les enfants étaient tristes, et alors ils ont demandé « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, il y a un des garçons qui a dit « Ah, mais je sais qu'on est trop jeune, mais moi, j'aurais tellement aimé devenir agriculteur. » Alors, les parents se sont dit « Ah, mais c'est pas une bonne idée, alors, de vendre la ferme. » Et donc, finalement, ils ont décidé de mettre un fermier en place le temps que les enfants soient assez grands. Donc, c'était un bel exemple, je trouvais, de concertation familiale. Par exemple, aussi, pour le choix des vacances. Moi, j'aime beaucoup la montagne. Et donc on parle où est-ce qu'on va en vacances et tout, et les enfants. Et en fait, quand on part en vacances en été, on va à la mer. Donc, concertation, on se met d'accord. Heureusement que je sais qu'ils m'ont déjà acheté mon cadeau de Noël. En fait, la famille, c'est un lieu d'entraînement aussi pour écouter la voix de Dieu. Et parfois, on peut dire des choses, une parole du Seigneur, mais quand on l'a dit dans la famille, on est cash remballé, quoi, si ce n'est pas juste. Et moi, je priais, Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour Isabelle? Qu'est-ce que je pourrais faire pour telle situation? Et alors, le Seigneur m'a donné une idée géniale. Et alors, je lui dis, chérie, moi, j'ai un truc que je te propose, c'est ça qui te ferait du bien. Et je lui dis, elle me dit, tu n'as pas compris? Je te propose quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ouais, j'étais fier de moi, là. Et alors, elle me dit, mais j'ai pas du tout besoin de ça. Alors, je dis, Seigneur, j'ai du mal à comprendre. Et en fait, c'est vraiment un lieu d'exercice où on sait si c'est juste qu'on a entendu ou pas. Alors, donc j'ai déjà dit que les femmes sont pénibles. Alors, je... en fait, non, c'est... Non, ce que j'ai écrit là, en fait, c'est souvent, j'ai écrit souvent, si nos femmes sont pénibles, alors j'ai dit souvent, c'est pas toujours, il faut aussi nous laisser une chance. C'est parce que nous n'assumons pas notre mandat d'homme. Là, je me rachète, hein. Vous êtes toujours avec moi, les gars ? Non, vous savez que Dieu nous a donné le mandat de chef de famille. Et en fait, le chef de famille, ça ne veut pas dire celui que tout le monde sert. Ça veut dire celui qui pourvoit aux besoins des uns et des autres, celui qui protège Celui qui veille à ce que, par exemple, sa femme soit épanouie. Et après, on peut se dire, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ta femme soit heureuse? Et donc, ça m'a beaucoup remis en question, ce genre de réflexion, parce que on a tendance un peu à se servir soi-même et à regarder ses propres besoins, à dire « ouais, c'est pas normal, et puis ceci, et puis cela, quand même. Qui est le patron ?» Et c'est là que nous devons nous rappeler comment Jésus est le chef de l'Église. Et en fait, Jésus, il est venu, il s'est dépouillé. Il était avec Dieu, il avait la position, il était Dieu. Enfin, il est Dieu toujours, mais quand il est venu, il était dans cette position, il était Dieu. Et il est venu, il est né dans une étable, il était dans une famille pauvre, d'immigrés. Et en fait, Jésus nous montre l'exemple de ce que c'est être un chef. C'est celui qui se donne. Et là, nous avons du travail, enfin en tout cas moi, du travail de vraiment réaliser ce que ça veut dire se donner. Et j'ai appris déjà à donner, à me donner. Et après, il y a ce moment qui vient, on se dit, oui, mais quand même. Et en fait, Jésus n'a pas ce quand même. Il se donne, il va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, à la croix, pour nous. Et je crois que c'est vraiment important que nous puissions saisir cela. Et quand j'ai réalisé, de nouveau, j'ai eu un peu une nouvelle révélation de ce verset, il s'est dépouillé lui-même. Ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Et j'ai demandé pardon le lendemain même à Isabelle, j'ai dit, pardonne-moi pour mon attitude. Et j'ai vraiment ressenti ce que... Enfin, d'une nouvelle manière, alors je ne peux pas dire que j'ai tout compris, mais depuis ce jour-là, il y a une autre ambiance dans notre couple. Alors, ce n'est pas qu'on était... on n'était pas bien avant, mais il y avait toujours des petits trucs, quoi, comme ça arrive, mais vraiment une nouvelle façon de vivre, d'être dans cette attitude de se dépouiller pour donner. Ce n'est pas juste pour devenir un larbin. Et c'est un peu ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que, tu sais, quand tu commences à servir, là, les gens vont t'utiliser, alors ça arrive aussi. Mais quand on le fait dans cet esprit, dans cet état d'esprit, comme Jésus, alors nous allons produire la vie autour de nous. Les gens ne pourront pas nous prendre des choses et nous piétiner parce qu'on a cette position quand même d'autorité. Et on pourra dire stop, dire ça, c'est pas bon. Y a une anecdote qui me vient encore, là, toute récente. Quand on a cette notion de se servir soi-même. J'étais dans un magasin pour chercher un cadeau pour mon père. Et là, comme c'est toujours le cas, les vendeurs sont... sur bouquet, et donc il était avec des clients qui voulaient un objet, et puis il a dit je vais le chercher dans la réserve. Donc je me suis dit, en passant, il faut juste qu'ils me disent oui ou non. J'ai dit, s'il vous plaît, non, là je reste avec les clients. Et là j'étais vraiment vexé, quoi. Je me dis, mais il se prend pour qui le mec? Moi je voulais juste lui poser une question. Et alors je me suis dit, mais Werner, toi tu te prends pour qui? Et en fait, c'est tout à fait normal qu'il reste avec les gens avec qui il a commencé, qu'il termine de les servir, etc. Donc c'est toujours des petites situations où on se rend compte qu'on se prend au sérieux, ou plutôt on est dans une attitude de serviteur. Et donc c'était cette notion... d'être d'accord, de se dépouiller. Je crois que c'est vraiment important que nous apprenions cela, parce qu'on ne peut pas continuer, ou on ne pourra pas tenir dans la situation dans laquelle on est dans ce monde, avec les pressions qu'on va vivre, On ne pourra pas subsister en essayant de nous servir nous-mêmes, notre petite personne, notre petit ministère, et puis de faire des calculs. Ouais, mais si je peux parler d'Ava, ça va m'ouvrir des portes et tout. C'est vraiment, Seigneur, ce que tu veux que je fasse, je veux le faire. Et je ne veux pas le faire pour me servir moi. Vous savez, même si on prie pour quelqu'un, pour qu'il soit guéri, ça nous aiderait bien qu'il soit guéri, comme ça on devient crédible, vous comprenez? Et c'est ce genre de petites pensées qui faussent notre service pour le Seigneur. C'est pas ce qui se produit. Nous, on dépend pas de ce qui va se produire, on dépend de notre attitude devant le Seigneur. On a plié le genou parce que c'est lui qui a toute la gloire. Donc c'est cette image que nous pouvons retenir aussi dans le fonctionnement familial de Jésus pour son Église. Donc en tant qu'homme, nous avons vraiment cette dimension de sacrificateur, celui qui porte sa famille devant le Père, celui qui intercède pour la famille, celui qui fait aussi les choses pour que sa famille aille bien. Alors, peut-être que j'aurai une liste en rentrant, mais simplement, il y a cette dimension de fortifier la famille. Alors, j'avais encore un... Je vais pas aller tout de suite là. Cette dimension de fortifier la famille, et après on peut aller plus loin. Et là, on fait la volonté du Père quand on est dans cette notion de fortifier la famille. Et dans ma vie, j'ai souvent fonctionné dans un autre registre, c'est-à-dire que je voulais servir le Seigneur. Et après, la famille, c'est parfois compliqué parce qu'on est tous les jours avec. Et alors, on se prend plus facilement la tête avec les gens de la famille qu'avec des gens qu'on voit de temps en temps. Et alors, c'est parfois plus facile d'aller à l'église que d'être avec sa famille comme on devrait être. Alors, j'aimerais juste vous partager un rêve que j'ai fait parce que c'était bizarre et en même temps, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rêvé et il y avait Jésus, mais je ne sais plus tout à fait comment était la scène. En tout cas, c'était en notion avec ce verset où Jésus dit à ses disciples, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et pendant ce rêve, j'ai ressenti cette satiété de faire la volonté du Père. Et alors j'ai dit, « Ouh, ça j'ai envie. J'ai envie d'avoir cette satiété en moi. Non pas d'avoir tout ce que je veux, mais ce que j'ai ressenti, parce que je fais la volonté du Père, ça c'était énorme. Et c'est ce que j'ai envie de vivre. Alors j'aimerais terminer encore avec un dernier point. C'est de dire que la famille ne se sacrifie pas. Elle envoie. Et c'est une grande différence. Et si on regarde la famille céleste, elle ne s'est pas sacrifiée. Elle avait un projet et elle a envoyé d'un commun accord le Fils pour qu'il paye le prix. Alors, il y a eu ce sacrifice. Mais je veux dire, ils n'ont pas sacrifié le fonctionnement familial pour quelque chose. Et parfois, on a tendance à faire ça en tant que chrétien. Parfois, on sacrifie notre famille, mais c'est pour le Seigneur. Et parfois, ça emmène à des situations assez dramatiques où encore, on avait entendu à un enterrement, hein, remercier la famille parce qu'elle s'est sacrifiée pour que le Père puisse faire ceci et cela. Et en fait, c'est un raccourci qui ne fonctionne pas dans le royaume de Dieu. On peut pas sacrifier sa famille pour servir le Seigneur. Il faut bien comprendre qu'on doit d'abord construire sa famille et sa famille doit envoyer. Et si la famille n'envoie pas, on prend un raccourci. On s'expose à des difficultés. Je vous avais raconté l'histoire d'un agriculteur américain qui était venu. Alors, je ne vais pas vous la raconter de nouveau, mais vous vous souvenez de cette histoire. Et le travail de Dieu, c'est de nous emmener de notre situation de notre échelle humaine à son échelle. Il faut que nous arrivions à réfléchir comme lui réfléchit. Et ça, c'est vraiment un grand travail. Alors, ça peut être dans la dimension, parfois on entend, « Ouais, toi tu rêves d'un vélo, en fait Dieu il veut te donner une Ferrari !» Tu vois, ce genre de raisonnement, penser grand, think big, je sais pas comment on dit. C'est pas tout à fait juste. C'est vrai que nous, quand Dieu nous met quelque chose à cœur, nous on a tendance à réfléchir petit et Dieu il voit plus grand. Un jour, un missionnaire africain m'a demandé, quelle est ta vision pour l'Église ? J'étais à l'époque responsable d'une Église. Quelle est ta vision pour l'Église ? Et je commence à lui dire ceci, cela, les enfants, les jeunes. Et alors il me dit, mais c'est pas assez. C'est pas assez. On dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore ? C'est pas assez. Et je dis, alors je faisais des efforts pour dire encore des trucs. Mais c'est pas assez. Il faut que tu réfléchisses, nation. Tu réfléchis ta petite église, là. Il faut réfléchir nation. Et dans ce sens-là, c'est vrai, on doit avoir beaucoup plus grand que notre dimension. Mais c'est pas juste au niveau... Parfois, on le détourne dans le sens de la prospérité. C'est toi, tu penses, Seigneur, donne-moi le pain de ce jour, mais en fait, Dieu, il veut te donner un château. Et... Alors, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas ça notre défi. Notre défi, en fait, c'est de penser comme Dieu. Et nous, on pense parfois grand. Tu sais, toi, tu prêches dans une église où la moitié sont partis en vacances, alors que Dieu, il aimerait te voir prêcher devant des milliers de personnes. Vous comprenez ce genre de raisonnement ? Enfin, je suis peut-être le seul à penser comme ça. Hein, mais en fait, Dieu, il pense pas comme ça. Il pense pas en quantité. Il a un projet. Il cherche quelqu'un qui est fidèle pour répondre à son appel et qui le fait. Et peut-être que cette personne ne voit jamais rien, ne voit jamais le fruit de son obéissance. Mais il a plié le genou devant le Seigneur et il l'a glorifié en faisant ce qu'il a été amené à faire. Et donc ça, c'est aussi... un travail que Dieu a avec nous, de nous emmener à penser différemment. Le succès selon Dieu, ce n'est pas la même chose que le succès selon les hommes. Et nous avons là du travail. Donc si je peux résumer, si un jour vous avez envie de vous marier, pensez que c'est vraiment entrer dans une équipe. Et c'est l'équipe numéro un. Et encore cette semaine, avec mon équipe, on avait prévu d'aller au marché de Noël. Et j'avais un coup de fil d'urgence de quelqu'un qui avait besoin de renseignements. Et alors j'ai commencé à, pendant qu'Isabelle se préparait, je commençais à répondre à ses demandes. Et après on s'est dit, maintenant on a prévu d'aller au marché de Noël, on va au marché de Noël. Équipe numéro 1, premier servi. Donc c'est en cours, hein. Peut-être tu trouveras encore des trucs où ça ne marche pas encore, mais... Non, mais c'est, je le dis un peu avec humour, mais c'est vraiment un sujet très grave parce que on a besoin dans l'Église de familles fortes pour pouvoir devenir une Église forte. Et c'est comme ça qu'on va impacter la société. Quand une famille forte, même avec peu de choses, sait tenir ensemble et marcher dans la simplicité, dans l'obéissance, ça impacte la société. Ce n'est pas les décisions que le gouvernement va prendre pour augmenter les salaires qui vont changer quelque chose dans le cœur de l'homme. C'est vraiment ce changement de cap, de dire « Seigneur, je veux faire ce que toi tu demandes et comme toi tu penses les choses. » Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc je suis de tout cœur avec vous les gars. Pour les prochains repas de famille, où il y aura peut-être des choses à partager. Merci Seigneur parce que tu es venu, tu t'es donné, tu t'es dépouillé. Et Seigneur, combien de souvent nous cherchons à préserver ce que nous avons, à préserver nos droits, à défendre nos droits et à revendiquer. Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi, déposer toutes ces choses. Chaque fois que nous avons cherché à être l'égal de quelqu'un, Seigneur, nous déposons ces choses et nous voulons vraiment plier le genou devant toi et dire, Seigneur, c'est comme toi que nous voulons vivre. Seigneur, nous voulons te donner nos vies, nos aspirations, nos rêves. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous conduises vraiment dans ce chemin de la croissance, mais de l'humilité. Et Seigneur, je bénis toutes les familles ici, je bénis dans le nom de Jésus. Et j'appelle vraiment cette force qui vient de toi et qui nous renouvelle pendant ces temps de Noël. Seigneur, je prie que dans chaque famille, là aussi où nous avons des personnes qui ne te connaissent pas dans nos familles, Seigneur, que ces moments de famille soient aussi l'occasion d'aller un peu plus en profondeur, Seigneur, dans les échanges. Que nous ne nous limitions pas aux bonnes choses à manger et puis aux cadeaux, Seigneur, mais qu'il y ait vraiment un échange, qu'il y ait quelque chose qui se donne aussi dans ces temps de Noël. Seigneur, nous te remercions pour ton amour pour nous, pour ta patience,